On voit bien chez Courbet le révolutionnaire, Courbet, le communard. Manet va se mêler un peu à la commune, mais après il prendra des distances avec la violence des communards. Il était républicain, donc opposé au pouvoir de son époque. Enfin, ça, sur le plan politique, est-ce qu'on peut dire qu'il était révolutionnaire ?
Non, c'est plutôt qu'ils choisissent de s'abstraire de l'ordre établi de la peinture. Il ne s'agit pas de dire qu'ils s'abstraient de l'ordre établi, de tout l'ordre établi. Ils s'abstraient de l'ordre établi de la peinture, c'est-à-dire telle qu'elle est définie par la peinture académique de cette époque. Et ça peut être donc une rupture formelle, mais ça peut être aussi une rupture par le sujet. Alors c'est vrai que chez Courbet, il y a les deux. Il y a à la fois la rupture formelle et la rupture par le sujet. Chez Manet, ça peut être tantôt le sujet, tantôt formel. Ça dépend des tableaux. Olympia n'est pas un tableau révolutionnaire en soi par le sujet. C'est une femme nue, c'est un tableau extrêmement classique en termes de thème. Simplement, c'est un certain regard sur la nudité, c'est une autre façon de proposer la nudité qui est complètement en décalage par rapport à ce à quoi les gens étaient habités. Donc c'est en ce sens-là que c'est révolutionnaire.
Manet institue un univers dans lequel plus personne ne peut dire qui est peintre et ce que c'est que de peindre comme il faut.
Christophe Charles, qu'est-ce que Manet disait de Manet ? Là, c'est Bourdieu qui parle de Manet. Il aborde par plusieurs côtés, plusieurs angles, plusieurs conditions. Mais qu'est-ce que Manet disait de lui-même, de son travail, de son œuvre ?
Ben, on est un peu désemparé parce qu'on a souvent des témoignages qui sont indirects par ça peut être des écrivains, des journalistes, des amis d'enfance. Hein. Antonin Proust, par exemple, raconte ses souvenirs d'enfance parce qu'il a été au lycée avec Manet, il a connu Manet pendant une longue période de sa vie. Donc, il faut faire attention à ce type de témoignage parce que c'est déjà des gens qui parlent de quelqu'un qui est déjà célèbre. Quand ils en parlent, sinon ils n'en parleraient pas. Donc ils créent parfois une légende où ils accentuent parfois certains traits de caractère. Quand il a fait une exposition personnelle en 1867, il y a un petit catalogue avec un petit texte au début où il explique un peu son projet. Et ce qu'il dit, c'est « je veux qu'on me regarde tel que je suis et non pas tel que les gens voudraient que je sois ». Donc il affirme cette autonomie du peintre. Donc ça, c'est effectivement aussi ce sur quoi insiste beaucoup Bourdieu. Et il y a aussi cette idée de « je sais ce que c'est que la peinture, puisque j'ai appris la peinture comme tout le monde hein. ». Il a passé plusieurs longues années dans l'atelier de Thomas Couture, mais je veux qu'on fasse une peinture qui ne soit plus simplement une peinture d'école, qui reproduit les modèles. Donc il affirme son originalité. On a des témoignages de gens qui ont participé à des séances de pose avec lui. Alors là, c'est déjà des choses moins publiques, où il demande aux gens d'être naturels. Bon, alors évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être naturel, mais en tout cas, ça veut dire ne pas adopter des poses convenues que l'on souhaite dans l'art académique, essayer de révéler ce qu'on est réellement, au lieu de projeter une espèce d'image de soi officielle ou conventionnelle, etc. Donc, on voit qu'il y a un souci de l'authenticité, de la sincérité. Quand on regarde, évidemment, la suite des tableaux de Manet, il y a des évolutions très sensibles. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait, enfin, comme on dit, qui n'était jamais satisfait d'une version. Et on voit bien qu'il y a des périodes dans sa vie, les premières périodes où il se confronte aux tableaux anciens, où il reprend des sujets de tableaux anciens et il les traite à sa manière pour montrer à la fois qu'il sait
Goya,
faire des tableaux.
Goya, l'Espagne, etc.
Voilà,
oui.
Goya, les tableaux espagnols. Mais en même temps, il y apporte sa touche personnelle et il montre que ce sont des tableaux d'aujourd'hui, non pas des reproductions des tableaux anciens. Et puis après, il va inventer ses propres sujets et puis il va de plus en plus s'éloigner de toutes sortes de conventions. Donc on voit bien que c'est un processus de construction progressif de cette révolution et qui va de plus en plus loin parce que, justement, au lieu d'accepter la critique qu'on lui renvoie et les rejets du public, il le défie à chaque fois un peu plus. C'est pour ça aussi que Bourdieu emploie ce terme de révolution symbolique.
Réussie. En quoi est-ce que cette révolution symbolique est réussie, Patrick Champagne ?
Elle est réussie parce qu'elle ne choque plus. Non seulement elle ne choque plus, mais ce qui devient presque choquant, c'est qu'elle est plus choquée
en son temps.
Ce que Bourdieu essaye de faire, c'est de faire une science des œuvres, c'est-à-dire de passer, en gros, d'une analyse de ce qu'il appelle d'une manière plus générale les lecteurs, à une sociologie des auteurs. C'est-à-dire essayer de comprendre comment Manet était amené à peindre, qu'est-ce qu'il y avait dans Manet, de culture, d'expérience, de la peinture, etc.
Et il se met pas du côté du spectateur, il se met du côté de Manet.
Il a par exemple un passage amusant dans lequel il dit qu'il y a cette espèce de manière de percevoir les tableaux comme « ça me fait penser à ». Ça me fait penser, alors c'est assez drôle.
Enfin, ça peut donner des choses assez formidables quand c'est Proust qui regarde Vermeer, par exemple.
Oui.
Quand c'est Proust qui intervient.